Béni soit Dieu. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, à partir du verset 8 au verset 16. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8 au verset 16. Et j'aimerais partager avec vous cette pensée quant à l'importance de savoir nous soutenir mutuellement. Nous avons besoin du soutien les uns des autres. Le jour où nous pensons être capables de tout faire par nous-mêmes, nous sommes en danger. Nous nous plaçons dans un contexte qui est favorable à l'ennemi pour nous prendre en contre-pied. La parole de Dieu nous parle de quelqu'un très connu, de quelqu'un très respecté, de quelqu'un qui est considéré Moïse. Et il nous montrera comment même Moïse fera appel à d'autres pour le soutenir. Amen. Il dit la parole de Dieu, « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le sommet de la colline, et lorsque Moïse éleva les mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait la main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur, soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare-les à Josué par que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Il dit, « Parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Toute histoire à des personnages. Dans toute histoire, nous voyons des hommes, des femmes qui sont choisis à un certain moment pour vivre cette histoire. Et là, dans le cas qui est le nôtre, nous avons Moïse, dont le nom veut dire « tiré d'eux ». Vous vous rappelez l'histoire de Moïse. Il a été tiré des eaux. Josué, l'Éternel est salut. Aaron, qui veut dire « brillant ». Hur, qui était le fils de Caleb, et Myriam, la sœur de Moïse. On voit les hommes, un peuple de combattants. Et là, après, il y a Amalek, qui est un homme qui demeure dans la vallée, un ennemi, connu pour être un harceleur de ceux envers qui il allait à la bataille. Ces choses pourraient nous sembler loin, mais chaque personnage a un rôle bien défini. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le sommet de la colline. Amen. Il est important pour chacun de nous de savoir prendre la bonne position. Quelle qu'il soit l'histoire dans laquelle Dieu nous place, sachant demander à Dieu, « Seigneur, quelle est la posture, quelle est la position que je dois prendre ?» Ça change tout. Si Josué et Moïse avaient inversé les rôles, qu'est-ce qui serait passé ? Moïse n'était pas appelé à aller se battre, il était celui qui devait lever les mains vers l'Éternel. Et Josué serait resté sur la colline, il n'aurait pas accompli ce pour quoi Dieu l'avait préparé. À quoi Dieu nous a préparé? Comment Dieu nous a équipés? Le texte nous dit que Josué devait choisir des hommes et pour aller à la guerre, il fallait s'équiper. Ils ne sont pas partis les mains nues, ils sont allés à la guerre. Et Moïse, il reçoit l'ordre de la part de Dieu de monter sur le sommet de la colline, le bâton de l'Éternel à la main. Et là, il n'y va pas tout seul, Aaron et Hur sont avec lui. Je tiens à préciser qu'on parle du bâton de l'Éternel, qui au préalable n'était que le bâton de Moïse. Ce bâton a changé en réalité le jour où Dieu lui révélera déjà sa volonté pour délivrer le peuple d'Israël qui était en Égypte. Du moment où Dieu changera ce bâton en un serpent pour lui montrer un des signes qu'il devait accomplir devant Pharaon, si vous lisez bien le texte, à partir de là, il appellera ce bâton le bâton de l'Éternel. Sachons prendre ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs. Quand Dieu s'est révélé à nous, quand le Saint-Esprit est venu dans notre vie, il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il est venu pour nous équiper, pour que nous soyons prêts à relever le défi qui est devant nous. Le rôle de Moïse était bien clair et il était important. Je dirais aussi important que celui de Josué dans la vallée. Aussi important que tous les hommes qui avaient été choisis par Josué. Ils étaient partis à cette guerre en sachant qu'il allait y avoir des choses particulières. À la différence d'Amalek, Moïse sait qu'il est important de prendre de la hauteur pour le combat. Nous, parfois, on reste, excusez-moi, la tête dans le guidon et nous voulons aller au combat, mais ce n'est pas comme ça que Dieu va nous éclairer. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. On a besoin de prendre la hauteur. Et la hauteur, comment nous pouvons la prendre? Si ce n'est dans la prière. Et de dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Le psalmiste dira, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, combien est important pour nous de dire, Seigneur, aide-moi à prendre de la hauteur par rapport à la situation qui est là. Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser confondre par les situations et les circonstances. Seigneur, donne-moi une vision claire de celle qui est ta volonté, non pas la mienne. Quand on est au même niveau que les problèmes, frères et sœurs, c'est difficile d'y voir clair. On a besoin de prendre un tout petit peu de distance, alors ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse, non. C'est qu'on sait que le seul qui puisse solutionner le problème, c'est Dieu. Moi, j'ai beau ruminer les problèmes, je n'ai pas de solution. Ça vous arrive de vous réveiller la nuit avec un souci? Oui? Non? Vous dormez tous bien, comme des bébés. Non? Non, ça arrive qu'on a un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? On cogite, et le matin, on se lève, et on est déjà fatigué. On se dit, j'ai fait déjà ma journée. Et toute la journée, on est là, on est encore plus fatigué, on n'arrive pas à trouver le moyen de s'en sortir. Et le jour d'après, on recommence. Et à fur et à mesure, on perd en lucidité, on perd en capacité de savoir entendre Dieu ce qu'il a à nous dire, parce que nous, on se laisse avoir par le problème qui nous prend et qui nous occupe la tête. Et on est peut-être passé à côté de la solution de Dieu et on ne l'a pas vue. On ne l'a pas entendu parce qu'on était trop pris par nos problèmes. Moïse prend de la hauteur. Il n'y va pas seul. Pourtant, c'est Moïse. Frères et sœurs, sortons de l'idée qu'on est mieux seul. Sortons de l'idée que quand on est seul, on arrive à mieux gérer. Sortons de cette idée où finalement on s'isole et on devient une proie de l'ennemi. Il y a un moment où dans le texte, on le voit, il est question pour Moïse d'avoir les mains qui sont levées au ciel. Combien de temps pouvez-vous garder vos mains levées au ciel? Vous avez déjà essayé? Non, non pas allongé. Allongé, c'est facile. Non, 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 debout, les mains levées. Au bout d'un moment... Hein? Les bras nous tombent. Il y a des moments où on voudrait baisser les bras. Parce qu'on dit, Seigneur, ça fait X temps qu'on se bat. Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus physiquement, j'en peux plus moralement, j'en peux plus, Seigneur. Je voudrais baisser les bras. Et Dieu avait déjà prévu les choses parce qu'il dit à Moïse, va pas seul. Que c'est beau quand Dieu nous prépare. Nous, on ne comprend pas toujours. La preuve, c'est que Moïse, quand il arrive sur la colline, il ne donne pas des ordres en disant « prenez un caillou, faites ceci, faites cela ». Non. Dieu sera nous donner, au moment opportun, la sagesse. Et nous devons aussi compter sur ce que Dieu va révéler à ceux qui sont là avec nous pour nous soutenir dans la prière. N'est-ce pas? Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Mais est-ce que nous croyons aussi aux dons spirituels? Est-ce que nous croyons à la prophétie? Est-ce que nous croyons à l'action du Saint-Esprit? Eh bien, si nous le croyons, nous devons aussi être à l'écoute. Parce qu'on peut être là sans écouter, sans entendre rien, et repartir avec la même pensée qu'on avait en arrivant. Seigneur, les bras me tombent. Et Seigneur te dit, mais moi, je t'avais dit, reste pas seul. Oui, mais Seigneur, j'ai les bras qui tombent. Vous vous rappelez l'histoire de cet homme qui est à la piscine de Bethesda? Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Et nous, parfois, on fait la même réflexion. On dit, j'ai personne. Comment t'as personne? Tournez votre regard et osez dire que vous avez personne. Alors, si vous regardez bien, chaque personnage est différent. Hein, chaque personne est différente. Josué choisit des hommes pour combattre. Chaque homme était prêt à aller se battre. Chaque soldat était équipé pour le combat. Chaque homme faisait partie de l'armée du peuple de Dieu. Nous devons être conscients que Dieu nous a choisis. Je ne crois pas être passé chez vous ce soir vous dire « viens à la réunion ». Même si ça peut arriver parfois de dire « hé, mon frère, ma sœur, viens à la réunion. Reste pas tout seul chez toi. Viens, viens. » Apporte tes soucis avec toi et tu repartiras sans. Qui le croit? Amen. Gloire à Dieu. Psaume 91, versets 1 à 7. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Notez bien, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Amen. Alors on marche mieux. On rase pas les murs. On se dit, Seigneur, c'est vrai, il y a différentes choses qui pourraient toucher à ma vie. Seigneur, il y a différentes choses qui pourraient m'amener à voir l'avenir difficile. Les impôts qui augmentent, l'électricité qui coûte plus cher, l'essence qui coûte ceci. Et vous savez, il y a plein de choses qui pourraient nous atteindre moralement, spirituellement. Et on pourrait commencer à dire, oh, comment on va faire? Comment je vais faire à me chauffer cet hiver? Mais le Seigneur fera briller le soleil sur ta maison, mon frère et ma sœur. Non? Vous croyez pas? Essayez, vous verrez. Vous priez le matin, tu dis, Seigneur, fais briller ton soleil sur moi. Seigneur, pourvois à tous les besoins spirituels et matériel. Je compte sur toi. Dieu prend soin des petits oiseaux. Est-ce qu'il ne prendra pas soin aussi de nous? Il y a les petits oiseaux, il y a les grands oiseaux. Hein? Ben oui. Parce que des fois, avec notre réflexion et notre raisonnement, on est loin de la réalité. On est loin de réaliser tout ce que Dieu est prêt à faire pour nous. Et après, peut-être, on se permet même de dire, on ne voit pas de miracle. Chaque personnage a son rôle. Moïse élevait la main, dit le texte. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et Josué soumit Amalek. Quelle belle participation des uns et des autres. Quand Dieu nous accorde une victoire, frères et sœurs, c'est jamais le résultat d'une personne. On a tous participé, qui d'une manière, qui d'une autre. Josué, il aurait pu dire, ah, heureusement que j'étais là pour me battre. Mais le texte me dit que quand Moïse baissait la main, mais c'est pas Josué qui était victorieux. Hein. C'est qui était victorieux? Celui qui harcèle. Frères et sœurs, on a besoin ensemble de nous aider à garder les mains hautes. En disant, Seigneur, je compte sur toi. Et quand mes mains sont trop fatiguées, moi j'espère pouvoir compter sur des frères et des sœurs. Et ça doit être comme ça pour nous tous. On a besoin de l'aide les uns des autres. Chaque personne qui accepte et remplit sa mission participe activement au résultat final. Chacun dépend des autres. Et vous avez vu comment une des techniques de l'ennemi est celle de briser les relations. À votre avis, pourquoi on est souvent attaqué dans nos relations? Pourquoi l'ennemi essaye de mettre, de semer de la zizanie, si ce n'est d'essayer de créer une séparation? L'unité, frères et sœurs, fait la force. Quand l'Église de Jésus-Christ est unie, il y a des choses incroyables qui se produisent. Chacun est important et nécessaire. J'aimerais lire ce texte avec vous qui se trouve en 1 Corinthiens 12 à partir du verset 14, qui nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul qui dit ainsi, « Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, il n'est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent entre les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grands honneurs. Ainsi, nos membres, les moins décents, sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'ont pas moins besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans la guise. Et dira le texte, les ministères, Dieu a établi dans l'Église. Chacun de nous, nous sommes et nous devons être là où Dieu nous veut. On ne peut pas se passer les uns des autres. Et pourtant, parfois, on a pu peut-être se dire, ah, pas besoin de lui. Pas besoin de lui. Ah, non, non, non. Je suis bien dans mon coin. Pas besoin d'eux. Parfois, on pourrait même croire qu'on n'a plus besoin d'église. Certains aujourd'hui le disent. Sauf qu'après, la réalité fait que l'ennemi les amène tellement loin que pas seulement ils ont quitté l'église, mais même le Seigneur. Parce que l'ennemi a su leur proposer autre chose et les sortir de ce que Dieu avait prévu pour eux. Alors parfois, les mains sont là pour nous tenir levés. Parfois, les mains sont là pour nous aussi nous retenir. Dire, mon frère, ma sœur, viens avec moi. Viens, on va prier. On n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans la maison des uns et des autres. Dieu le sait. Eh bien, c'est suffisant. Lui sait ce que nous avons besoin ce soir, n'est-ce pas? Chaque personnage écrit quelque chose dans l'histoire. Moi, j'aimerais bien que Dieu nous donne la grâce, frères et sœurs, de laisser une belle page, non ? De notre vie d'église. Je regardais cet après-midi un court reportage, je pense que je vais vous l'envoyer par mail, vous le verrez vous-même. C'est l'histoire du pentecôtisme, comment il est arrivé en France, la naissance du pentecôtisme. C'est fait simplement, c'est bien fait, vous le regardez. D'accord ? Et comme toute chose, prenez ce qui est bon. Le reste, vous ne prenez pas la tête. Mais quand je vois la stratégie de Dieu, quand je vois la manière de Dieu de faire les choses, nous, parfois, on croit qu'on a besoin de grandes choses pour faire des grandes choses. Moi, je me dis qu'on a déjà le grand Dieu, on n'a pas besoin du reste. Non ? N'est-ce pas ? L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir. Déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek. Et dit le texte, Moïse bâtit un autel et l'appela du nom l'Éternel, mon étendard. Vous savez, pendant la guerre, pas aujourd'hui, hein, mais dans le temps, il y avait toujours quelqu'un qui portait le drapeau. Et lorsque l'armée avançait, l'ennemi essayait de faire tomber le drapeau parce que c'était un symbole de dire ils ont perdu. Mais dès que la personne qui portait le drapeau était blessée et qui allait tomber, quelqu'un d'autre prenait le flambeau et avançait. Et je crois que c'est de notre responsabilité aujourd'hui de garder le drapeau de l'Éternel debout, de continuer à témoigner dans notre génération, de continuer à témoigner dans nos familles, de témoigner dans nos quartiers. Hier, j'ai pu aller faire visite à notre sœur Monique. Et on a pu partager un bon moment ensemble. Et elle me disait ce qu'elle a vécu pendant ces quelques mois qui étaient en maison de repos. Hein, et la manière où elle a pu aussi partager le fait qu'elle était chrétienne. Et elle avait une personne dans sa chambre qui avait un certain âge, difficultés, et notre sœur l'aidait comme elle pouvait. Et un jour, elle me dit, mais pourquoi vous faites ça ? J'ai jamais vu ça. Elle lui dit, ben vous savez, je suis chrétienne. Ah, je le savais. Ah, je le savais. Il dit, moi aussi, je suis allé une fois à l'église quand j'étais à Marseille. Je me dis, Seigneur, si c'était que pour raviver le souvenir du message qu'elle avait reçu, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as envoyé quelqu'un en mission dans cette maison. Et un autre soir, elle dit, j'étais en train de me promener, elle faisait sa petite promenade, et là, j'ai entendu quelqu'un pleurer. Et elle dit, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, je ne vais pas vous raconter toute la discussion. Hein. Mais finalement, cette personne a commencé à dire, est-ce que je peux venir marcher avec vous autour du bâtiment ? Ce n'était pas loin non plus. Hein. Mais oui, bien sûr. Et notre sœur, avant de repartir pour rentrer chez elle, est allée voir cette personne pour lui dire, écoutez, je pars. Ah, c'est gentil. Et dans la discussion, elle dit, mais comment ça se fait que vous prenez soin des autres ? Elle dit, mais ça fait partie de notre cœur, ça fait partie aussi de ce que le Seigneur nous demande. Je suis chrétienne. Ah, moi aussi, un jour, je suis allé dans une église à Arles. Ah. Ah. Et notre sœur, il lui a téléphoné encore pour prendre des nouvelles de cette personne. Il dit, c'est rare que quelqu'un s'intéresse. Il dit, il pleurait parce qu'il était seul et il avait peur de la mort. Étonnant, hein ? Dieu dit, écrit ces choses comme un souvenir. Moi, je crois qu'encore ce soir, le Seigneur veut écrire des belles choses. Et il veut que nous, on les écrive aussi dans notre cœur, parce que, oh, combien c'est bon de pouvoir témoigner de ce que Dieu fait, n'est-ce pas ? Déclare ! Moi, je crois que Dieu ira jusqu'au bout du combat. D'ailleurs, l'ennemi est déjà vaincu. Amen ! Alléluia ! Et il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors, quel est notre combat ? 1 Timothée 6, 12 dit, combat, le bon combat de la foi. Mon frère, ma sœur, si tu veux bien te battre, faut savoir avec qui tu dois te battre. Mais tu dois aussi savoir contre qui tu dois te battre. Parce que parfois, on fait confusion. On se bat avec ceux qui devraient être avec nous dans le combat. Et en effet, on fait l'œuvre de l'ennemi. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Souvenez-vous de ce que vous avez dit le jour de votre baptême. Ce jour-là, votre nom a été écrit, n'est-ce pas ? Sauvé par grâce, et la liste elle est longue, n'est-ce pas ? Quel bonheur ! Ce jour-là, il y a eu grande fête dans le ciel. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes rentrés, nous sommes rentrés dans la victoire de Jésus-Christ. Et parce qu'il a fait de nous des frères et des sœurs, il a fait de nous un peuple, il a fait de nous des sacrificateurs pour la gloire de l'Éternel. Alors encore ce soir, frères et sœurs, ensemble, levons les mains vers le Seigneur. Attendons-nous à lui. Et que le Seigneur puisse encore ce soir, demain, le temps qu'il le faudra, on gardera nos bras levés vers le ciel, ensemble, à nous soutenir dans la prière pour les différents sujets, parce que nous savons que Dieu est celui qui agit. Dieu est celui qui œuvre. Et nous élevons à l'Éternel un autel en disant « L'Éternel est mon étendard ». Béni sois-tu, Seigneur, encore pour ta parole. Béni sois-tu encore pour l'autorité de ta parole. Seigneur, ta parole, elle est bonne, parfaite, agréable. Elle est, Seigneur, pour moi une nourriture excellente. Seigneur, merci parce que tu nous as permis de nous approcher de ta parole. Seigneur, et rien peut nous donner ce que toi, tu nous donnes, Seigneur. Merci d'être aussi la source d'eau vive pour nous, Seigneur. Et ce soir encore, tu rafraîchis nos cœurs, Seigneur. Tu viens encore arroser nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le pain descendu du ciel. Tu nourris notre âme, Seigneur. Et tu renouvelles nos forces pour le combat. Seigneur, merci pour mes frères, mes sœurs qui sont là, avec lesquels, Seigneur, nous sommes ensemble dans le combat pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à nous soutenir les uns les autres. Seigneur, merci parce que, à l'image de Moïse, qui a été assis sur un rocher, Seigneur, nous sommes dans notre foi assis en Christ, assis dans les lieux célestes. Seigneur, à toi, toute la gloire, au siècle des siècles. Amen.